France Musique. Victor Hugo, L'exil. Le 11 décembre 1851 au soir, à la gare du Nord, qui n'est encore qu'un embarcadère de chemin de fer, dit-on, un voyageur monte dans le train pour Bruxelles. De taille moyenne, le visage encadré de cheveux longs tombants, il a dans sa poche un passeport au nom de Jacques Firmin Lanvin, ouvrier imprimeur. Ce n'est pas sa véritable identité, ni son vrai métier. Cet homme, au front monumental, aux prunelles d'aigle, comme le décrit Théophile Gautier, c'est Victor Hugo. Il s'en va. Il fut le coup d'État perpétré 9 jours plus tôt, le 2 décembre, par Louis-Napoléon Bonaparte. De légitime président d'une éphémère Seconde République, il s'apprête à devenir, par la force des armes, l'empereur Napoléon III. Victor Hugo a alors 50 ans et un vécu fulgurant. Académicien français depuis 10 ans, pair de France par la grâce de Louis-Philippe, il est élu maire du 8e arrondissement de Paris en 1848, puis député l'année suivante. C'est à la fois un écrivain à succès et une personnalité politique en vue. Auteur inspiré, empli de lyrisme épique mais aussi de compassion, il émeut le cœur du public, tant avec ses poèmes, odes et ballades, Les feuilles d'automne, qu'avec ses romans, Le dernier jour d'un condamné, Livre de combat contre la peine capitale. Ou encore Notre-Dame de Paris qui montre en Quasimodo le monstre poignant, la coexistence du sublime et du grotesque, la beauté qui se cache sous la laideur. Les pièces de théâtre de Victor Hugo, comme Cromwell, Hernani et son fameux scandale, ou encore Ruy Blas, contribuent à faire du poète la figure de proue du romantisme français. Un homme qui désire briser les traditions convenues de l'art dramatique, ouvrir la littérature à la liberté. Les contemplations annoncent son intention en 3 vers. Et sur l'Académie, aïeul et douairière, je fis souffler un vent révolutionnaire. Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire. En cette fin de l'année 1851, Victor Hugo est un homme qui compte et qu'on écoute. De républicain, il bascule à gauche. Son discours fleuve contre la misère et l'égoïsme des nantis, prononcé à l'Assemblée le 9 juillet 1849, scandalise la majorité de ses collègues, les conservateurs des partis de l'ordre. Cette prise de position provoque, dès lors, un retentissement considérable. Pourtant, les Français se préparent à approuver massivement, lors de 2 plébiscites, non seulement le coup d'État du prince-président, mais aussi le rétablissement de l'Empire. Victor Hugo, au soir du 2 décembre 1851, signe un appel virulent à la résistance armée. Charger son fusil et se tenir prêt. Commence alors le temps de la répression. Plusieurs amis de Hugo, Paul Meurice, Auguste Vacry, ainsi que ses fils Charles et François Victor, déploient une activité intense destinée à résister au coup d'État. Victor Hugo accuse Louis-Napoléon de haute trahison. Il est recherché par la police. Il se dresse contre ceux qui veulent étrangler la jeune République. Quant à ses fils, ils sont condamnés à 9 mois de prison ferme. 26 000 arrestations, 9 500 personnes déportées à Cayenne et en Algérie, 1 500 expulsions, dont 66 députés. Victor Hugo choisit l'exil. Dans le train qui le mène en Belgique, il emporte dans ses bagages ses fulgurances de visionnaire, ses grands projets pleins d'humanité et les livres qui lui restent à écrire. La légende des siècles ou Les Misérables. Il emporte aussi l'amertume du vaincu et une haine monumentale envers l'usurpateur qui s'est emparé du pouvoir. Rien ne l'apaisera. Dès son arrivée à Bruxelles, il jette sur le papier son pamphlet « Napoléon le Petit ». Il faut alors réunir la famille, prendre les dispositions nécessaires et fuir avant la parution en août 1852. La famille Hugo décide de se séparer de son mobilier parisien. Cette vente publique est l'occasion de découvrir, outre la bibliothèque, une collection de tableaux flamands, de dessins romantiques, une profusion d'objets de toutes origines et destinés à tous les usages. Un avant-goût de l'extraordinaire talent de décorateur et architecte d'intérieur que Victor Hugo laissera éclater dans sa future maison de Guernesey, Hauteville House. Mais cette manifestation publique est aussi une déclaration assumée de son refus de la situation politique. Pour abriter son exil, Hugo choisit alors l'île de Jersey, terre francophone et libérale. « Cette île solitaire que la libre Angleterre couvre de son vieux pavillon », dit-il. trois années durant lesquelles il cultive la nostalgie de son pays natal et rencontre régulièrement au Rocher des Proscrits d'autres bannis de l'Empire. L'exil est vécu comme une injustice, un deuil traversé de crises de découragement. Dans sa maison de Marine Terrace, à la Grève d'Azette, il se livre au spiritisme et surtout entame une intense production littéraire. Il s'attelle alors à la rédaction de L'Année Terrible, L'Art d'être grand-père, Les Contemplations. Puis il publie Les Châtiments, pamphlet vengeur contre Napoléon III. Les exemplaires sont alors expédiés en France, attachés à des ballons. D'emblée, Hugo projette d'assortir ses œuvres de portraits afin d'entretenir sa légende, alors que son existence bascule dans l'histoire. Il décide de se lancer dans la photographie et fait installer un atelier dans sa maison de Jersey. Son fils Charles est à ses côtés pour immortaliser la figure du père resté debout dans l'adversité, mais aussi ce nouveau monde de l'exil. L'assurance de la pose, la stabilité de la composition dont il apparaît comme le pivot, renvoie à la conclusion d'Ultima Verba. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Puis Hugo trempe à nouveau sa plume dans l'encre de la liberté. Il signe une lettre où il critique la visite de la reine Victoria à Paris. Il est alors expulsé de Jersey et gagne l'île de Guernesey, le 31 octobre 1855. Madame Hugo, sa fille Adèle, Charles et le fidèle Auguste Vacry le rejoignent. Le poète se félicite. On y parle français et l'on y vit très bien, à bon marché. Alors il achève les Contemplations, cette œuvre lyrique qui paraît simultanément en avril 1856 à Bruxelles et à Paris et qualifiée par Hugo lui-même de poésie pure. Elle regroupe des pièces de dates très diverses, certaines écrites avant la mort de Léopoldine, mais la plupart composées entre 1846 et 1855, principalement à Jersey. C'est ce qu'on pourrait appeler les mémoires d'une âme. Le poète y exprime sa nostalgie du bonheur disparu, médite sur la misère et la souffrance, la vanité des biens terrestres, le destin de l'homme, la fatalité, l'immortalité de l'âme, l'infini et le sens de l'univers. Alexandre Dumas lui écrit alors « Votre nouveau livre n'ajoute rien à ma tendresse et à mon dévouement pour vous, mais il grandit mon admiration à la hauteur de votre génie. » La vente des Contemplations permet enfin à Victor Hugo d'acquérir une maison. Il a 54 ans. La maison de Guernesey sort tout entière des Contemplations. Depuis la première poutre jusqu'à la dernière tuile, les Contemplations paieront tout. Ce livre m'a donné un toit. Hauteville House est à elle seule une œuvre littéraire, un roman, une nouvelle, un autoportrait de Victor Hugo, une autobiographie. Adèle, très réservée, y voit une façon de s'ancrer dans l'exil. Hugo concentre toute son énergie à l'aménagement de cette demeure. La famille y emménage le 5 novembre 1856. La maison est remplie d'ouvriers. Hauteville House devient une création hugolienne, un véritable autographe à trois étages, dira Charles. Chargé de symboles, de références à son œuvre et à sa philosophie, les décors de Hauteville House sont aussi l'expression de son inventivité créatrice, pleine de poésie, d'humour, d'inattendu. Victor Hugo aime marier les éléments chinois et gothiques, tapisseries flamandes et tapis turcs, carreaux de Delft et porcelaine japonaise. Il construit les cheminées, emblème du foyer par excellence, comme de véritables cathédrales. Le 16 août 1856, Victor Hugo écrit à Jules Janin. « Figurez-vous qu'en ce moment, je fais bâtir presque une maison. N'ayant plus la patrie, je veux avoir le toit. » Le 18 août 1859, dans une courte déclaration, Victor Hugo refuse publiquement l'amnistie de tous les condamnés politiques. Fidèle à l'engagement que j'ai pris vis-à-vis de ma conscience, je partagerai jusqu'au bout l'exil de la liberté. Quand la liberté rentrera, je rentrerai. Commence alors l'exil volontaire. Le 5 septembre 1870, suite à la défaite de Sedan et la capitulation de Napoléon III, la République est proclamée. Victor Hugo, accompagné de Juliette, de Charles et de sa famille, rentre en France après 19 années d'exil.
À réécouter sur francemusique.fr.